Matière à penser, Antoine Garapon.
Matière à penser qui achève cette série sur Laure Daly en se penchant sur l'imaginaire ordalique contemporain avec Erwan Lecoeur, sociologue. On a successivement examiné au cours de cette semaine, tout d'abord, l'original, Laure Daly, comme une réalité historique, comme une pratique de vérité, assumée comme telle par ceux qui s'y livrent. Et puis, nous nous sommes intéressés à Laure Daly comme métaphore explicative pour comprendre les conduites telles que les addictions ou encore le goût des adolescents pour le risque. Et je vous propose de terminer cette semaine pour regarder la présence grandissante des Laure Daly dans les productions culturelles contemporaines. Quoi, enfin, les productions culturelles, pas celles que considère comme la culture avec un grand C, qui n'est pas tellement examinée, sauf sur cette chaîne par François Angelier dans Mauvais Genre. Non, une culture populaire qui était réservée plutôt aux enfants, qui n'est pas savante, mais qui est extrêmement intéressante, précisément pour ce qu'elle révèle de nous-mêmes. Et pour cela, nous serons accompagnés d'Erwan Lecoeur, qui est sociologue et qui a fait de cette littérature, de ces séries B, de ces productions culturelles, son laboratoire. Bonsoir Erwan Lecoeur.
Bonsoir.
Alors, je vous rappelle que vous avez fait votre thèse, il y a déjà quelques années, une thèse intitulée « Front national, sens et symbole », mais qui avait pour sous-titre, et là ça nous intéresse directement, « Propagande politique et quasi-religieux ». Donc, vous avez déjà analysé cette présence du quasi-religieux, cette force, cette forte imprégnation symbolique déjà des thèmes de l'extrême droite.
Oui, c'est cela. En fait, c'était en 2002, donc je soutenais ma thèse entre les deux tours de l'élection présidentielle.
Oui.
Et à l'époque, j'avais
ça n'a pas apporté bonheur à la France.
Non, mais je n'y pouvais pas grand-chose. Je disais dans ma thèse que la force fondamentale sur laquelle s'appuyait le lepénisme, cette chose qui gagnait la France et qui pouvait gagner au premier tour de l'élection présidentielle et se retrouver au second tour éventuellement, ce qui m'avait valu quelques éléments de presse et de médias à l'époque, j'appuyais mon analyse principalement non pas sur les courbes électorales et les sondages, mais plutôt sur le fait qu'il me semblait que le Front National, comme d'autres forces politiques ailleurs dans le monde, on voit par exemple en Inde en ce moment le Bharatiya Janata Party, le parti nationaliste hindou, ou bien ce que Trump incarne aujourd'hui, ou bien ce que Erdogan incarne en Turquie. Bref, toutes ces symboliques religieuses réinvesties dans la propagande politique. Et c'est cela qui m'intéressait déjà à l'époque et que j'avais essayé d'étudier au sein du Front National, notamment en étudiant les deux grands partis, les deux grands mouvements, je dirais, internes au Front National, notamment en termes religieux, qui étaient les cathos traditionnalistes d'un côté et les néo-païens de l'autre, qui se disputaient d'une certaine façon, la prégnance idéologique sur le Front National. Et ces deux mouvances internes donnaient au Front National quelque chose, un parfum de religieux. Et on pouvait les voir, on pouvait notamment rencontrer ces jeunes gens, ils n'étaient pas tous très vieux, il y en avait des très jeunes. On pouvait les voir, notamment sur les réseaux sociaux débutants.
Déjà en 2002.
Déjà, et sur les jeux, et dans les jeux vidéo. Puisqu'à l'époque, j'avais fait une petite analyse, notamment du fait que le recrutement d'un certain nombre de jeunes au FNJ ou dans d'autres groupuscules de ce genre se faisait par le biais de jeux vidéo, où on incarnait, je ne sais pas quel héros, quel chevalier, que l'on retrouve aujourd'hui dans des séries très 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 actuelles comme Game of Thrones.
C'est ça, alors on va parler de Game of Thrones, mais les jeux vidéo qui servent beaucoup au recrutement des djihadistes. Alors, une tension, parce que c'est pas du tout la même chose entre les cathos traditionnalistes ou entre les hindous qui veulent garder l'identité hindouiste de l'Inde et puis le néopaganisme, Erwan Lecoeur, c'est pas du tout les mêmes choses. On a le monde ancien qui s'accroche à travers les conservateurs, on dirait aujourd'hui, qui veulent maintenir l'identité chrétienne de l'Europe, de la France, etc., catholique. Et puis, ce mouvement beaucoup plus obscur, et je crois qu'il n'est pas connu de nos concitoyens, ce que vous appelez le néopaganisme. Qu'est-ce que c'est que le néopaganisme, Erwan Lecoeur ?
Très rapidement, parce qu'il y a eu des thèses beaucoup plus précises sur ce sujet dans ce milieu-là. Hein. Il y a eu des thèses sur le néopaganisme au sein de l'extrême droite française notamment, mais européenne. Pour faire très rapide, c'est la recomposition, un bricolage religieux et idéologique à partir d'un fondamental qui est que avant le christianisme, avant Jésus-Christ, qui aurait affaibli l'esprit européen originel, il y avait en Europe notamment, mais ailleurs dans le monde également, il y avait des croyances beaucoup plus fortes et beaucoup plus fondées qui faisaient de grandes sagas. On peut penser à l'Empire romain, on peut penser aux sagas du nord de l'Europe, on peut penser bien sûr aux Celtes et à leurs dieux. Il y avait de grandes sagas qui racontaient l'histoire du monde, de pourquoi on en était là dans le monde, et qui donnaient surtout un mode d'emploi, comment se comporter dans ce monde.
Oui, et un mode d'emploi plutôt violent.
Parfois violent, parfois moins violent. On pense que, par exemple, en Inde, dans l'hindouisme, il y a quelques millions de dieux, parce que chaque village a un peu son dieu, chaque corporation, chaque bout de famille, quelque part, a un peu son dieu à soi. C'était un peu le cas dans une certaine mesure chez les Celtes, chez les Romains, chez évidemment les Grecs, évidemment, avec toutes ces grandes sagas qui nous racontaient le monde. Et ces grandes sagas sont de retour. Et c'est cela que j'essaie de voir à travers, notamment, bien sûr, les jeux vidéo d'il y a quelques années, mais aussi les feuilletons devenus séries télévisées, mais aussi maintenant dans les grands films américains, les grandes productions américaines. Il suffit de penser à Matrix, à Tolkien et à toutes ces grandes productions américaines qui remettent au goût du jour ce néopaganisme-là, bien devant le catho-traditionalisme, si l'on
mais,
pense
mais
à ça.
Mais je disais tout d'abord que, en commençant cette émission, je disais que la culture à laquelle vous vous intéressez, en lisant ce que vous avez fait, Erwan Lecoeur, c'était, il y a encore quelques années, une culture underground, on dirait, une culture pour enfants, des livres pour enfants, Le Seigneur des Anneaux, par exemple, Hobbit, ou bien alors...
Ou grands-enfants, adolescents.
Ou grands-enfants, mais qui ont formé une génération qui, aujourd'hui, sont des gens installés, qui sont aux commandes, j'allais dire.
Oui, ou en tout cas, qui ont 30 à 40 ans et qui revivent, comme ils revivent, je dirais, avec Chantal Goya pour Le Milieu des Gays, par exemple, qui a fait un revival de Chantal Goya, comme certains ont une espèce d'amour pour Récréa 2 et Dorothée, eh bien eux, ils ont un amour pour leur lecture d'enfance et tout ce revivalisme, je dirais, néo-païen que l'on retrouve dans Tolkien, dans Le Seigneur des Anneaux, dans Le Hobbit, et que l'on a vu faire des scores absolument phénoménaux dans les charts. C'est-à-dire que c'est devenu mainstream. C'est ça.
Mainstream, et on voit ce décalage d'ailleurs entre la culture et l'intérêt que comporte à cette production. Mais quels sont les grands thèmes, Erwan Lecoeur? Quels sont les thèmes qui caractérisent cette nouvelle vague? Alors, on parle de néopaganisme, c'est un peu vague, mais vous avez, et vous êtes en train de titrer chaque chapitre qui constitue ce qui n'est pas un dogme, qui est plutôt une ambiance contemporaine.
Oui, je dirais que c'est plutôt une ambiance sociale, générale, un imaginaire global, que l'on peut d'ailleurs décrypter dans certaines manifestations des Gilets jaunes. C'était d'ailleurs le départ d'une conversation récente sur le sujet, à savoir, quand on pense à des gens qui sont pas tout à fait d'extrême droite, mais qui sont quand même extrêmement virilistes, par exemple, dans les manifestations
c'est
actuelles.
C'est quoi le virilisme?
Le virilisme, c'est en gros le culte de la virilité, le culte du chef incarné, et surtout du fait de se bagarrer, d'être capable de se bagarrer. Il y a un grand film dans l'imaginaire contemporain, qui est Fight Club. Ce film a remis au goût du jour le fait que se battre contre le système est une bonne chose. On peut penser à V comme Vendetta.
Se battre contre le système dans
oui,
Fight Club.
Se battre contre le système, et Fight Club, c'est ça.
Est-ce que vous pouvez dire en deux mots l'intrigue de Fight Club?
L'intrigue, c'est qu'un jeune homme qui ne réussit pas très bien dans la vie, qui est un peu malingre, qui ne réussit pas à avoir des relations normales avec les femmes, à avoir des relations normales avec ses employeurs, va se trouver une partie de lui, un autre lui-même, dans la bagarre de rue qu'il va instaurer dans des clubs fermés et réservés à des hommes d'une trentaine d'années environ qui viennent là se battre et se révéler à eux-mêmes à travers cette baston de rue. Et ils vont petit à petit devenir une espèce de rouage qui ne fonctionne plus dans le système. Et comme tous ces gens sont des gens qui ont des boulots inintéressants mais qui sont nécessaires au système, et bien le jour où ils font grève, où ils se mettent à mettre le système en question, et bien le système ne tourne plus. C'est ça Fight Club, en gros, si on résume.
C'est la violence présentée comme une solution.
Exactement, comme une solution. Et encore une fois, on peut en revenir à certains gilets jaunes qui aujourd'hui considèrent, et sondage à l'appui, que la violence peut être parfois une solution face à un système qui ne nous écoute plus, qui nous met de côté et qui n'écoute plus une partie du peuple. Et là, toute la question est de savoir de quel peuple parle-t-on, bien sûr.
Et ce thème du virilisme qu'on retrouve à la droite de l'Église catholique aujourd'hui,
oui.
Qu'on trouve aussi, alors de manière peut-être subliminale, mais dans le Front National, et qu'on a toujours trouvé d'ailleurs dans la scénographie du Front National, il y a cette idée du militaire, de Jean-Marie Le Pen, de l'homme puissant et d'une violence qui résout les problèmes.
Que l'on a retrouvé dans à peu près tous les mouvements de ce type, que l'on retrouve aujourd'hui bien sûr en Inde avec Narendra Modi qui est en train de se faire réélire apparemment, qu'on retrouve en Israël avec Bibi hein, qui vient de se faire réélire également, qu'on retrouve avec Trump évidemment, qu'on retrouve avec Bolsonaro, qu'on le retrouve avec bien entendu Poutine qui est un peu le grand patron de tous ces virilistes s'il en est. Oui, Jean-Marie Le Pen a incarné cela très tôt, bien entendu. Il répétait qu'il était capable de faire 40 pompes le matin et qu'il menaçait chaque journaliste qu'il voulait de le retrouver sur un ring de boxe. Donc il y a bien quelque chose là dans cette famille politique qui est particulière autour du virilisme que l'on retrouve aujourd'hui dans certains groupuscules comme Égalité, Réconciliation, qui est proche de l'extrême droite et qui se déclare lui-même socialiste et nationaliste.
Alors, il s'agit, pour bien vous comprendre, Erwan Lecœur, c'est important pour notre thème parce que Lord Ali, c'est bien évidemment une épreuve violente et qui passe par la violence ou qui passe par un contact violent au corps. C'est ce risque de mort dans l'immersion ou de prendre un brandon rouge. Et on a vu que dans les addictions, par exemple, ce risque mortel était une composante de la conduite ordalique. Mais là, est-ce que c'est une banalisation de la violence, une glorification de la violence, une mise en scène de la violence? C'est pas exactement la même chose, Erwan.
Alors, il y a deux choses. D'abord, il faut rappeler toujours que nos sociétés sont beaucoup moins violentes qu'elles ne l'ont été. Sociologiquement, nous vivons dans des sociétés très pacifiées. Il y a beaucoup moins de meurtres. Il y a 4 fois moins de meurtres que dans les années 60, 2 fois moins que dans les années 90. La violence réelle a quasiment, non pas disparu de nos sociétés, mais elle s'est transmutée dans une violence beaucoup plus imaginaire.
Et symbolique aussi.
Et symbolique. Et notamment dans ce qu'on appelle les incivilités, ou bien dans le besoin de sécurité encore plus fort qui produit d'autres formes de violence. Il y a des violences, notamment dans le fait de réserver des quartiers à des gens riches. Il y a des violences symboliques beaucoup plus fortes peut-être, mais dans le réel, sociologiquement, nous sommes dans des sociétés où la violence a disparu. Et donc, étrangement, paradoxalement peut-être, mais pas tant que cela, nous avons la création, la recréation de violences symboliques et d'un imaginaire, d'un besoin, d'un imaginaire d'ultra-violence, non plus seulement de violence, mais d'ultra-violence.
Quelle différence avec la violence, l'ultra-violence, c'est quoi, Erwan Lecœur?
Eh bien, on va beaucoup plus loin, c'est-à-dire on va au bout de la logique. La violence, c'est par exemple pour protéger quelqu'un. L'ultra-violence, si je prends Game of Thrones, l'ultra-violence, c'est aller au bout de la logique, c'est-à-dire que même les gentils meurent. Voilà, c'est cette violence-là, on n'y était plus habitué.
C'est ça, il n'y a pas le happy end qui a été quand même le dogme de Hollywood pendant pratiquement tout le XXe siècle.
Exactement.
Et ce réconfort moral qu'éprouve le spectateur de voir des histoires qui se terminent bien. Ce qui caractérise ces séries, et notamment Game of Thrones, dont on parle beaucoup en ce moment, mais à vous lire, c'est vrai, de beaucoup d'autres productions culturelles, ça se termine mal. Et c'est comme ça qu'est le monde.
Non seulement ça se termine mal, mais parfois même vous incarnez le mal. Par exemple, le jeu vidéo qui est absolument indépassable, donc GTV,
GTV pour nos auditeurs, GTV.
Donc je ne sais plus ce que ça veut dire exactement, mais en gros vous incarnez un voleur, violeur, tueur, qui vole des voitures et qui se promène absolument partout. Voilà. Et
entre parenthèses, c'est exactement le scénario de Nice.
Oui.
Le scénario de Nice, c'est le scénario de GTA.
GTA,
c'est très troublant de voir la similitude, en vrai, de voir cette ultra-violence qui est effectuée, qui est réalisée, qui est accomplie dans l'attentat, mais de voir à quel point elle correspond à un imaginaire du jeu vidéo qui correspond quasiment point pour point. On monte sur les trottoirs, on écrase tout le monde. Et avec, dans le jeu vidéo GTA, peut-être ce qui est le plus troublant, c'est le rire. Derrière, dans le jeu, le rire et la néantisation des corps qui sont fauchés.
Oui, il y a quelque chose dans ces jeux-là, de même que dans Assassin's Creed, qui est le jeu qui a une toute autre dimension, parce qu'il est très beau, il est historiquement extrêmement bien fait, etc. Mais quand même, vous incarnez un assassin par ailleurs. Il y a beaucoup de jeux vidéo qui ont passé la limite du mal et du bien. Alors là, on ne va pas aller dans Nietzsche, mais en gros, ce que je pourrais dire là-dessus, c'est que on a quelque chose de l'ordre de le dépassement du mal et du bien, d'une part, c'est-à-dire que on a une forme de collapsologie également que l'on retrouve.
Alors quel mot collapsologie avant de expliquer nous
rapidement la collapsologie inventée récemment par Pablo Servigne et Stevens, notamment, c'est un ensemble de matières et de disciplines qui se rassemblent pour montrer qu'il y a bel et bien un effondrement de nos civilisations qui est en cours et que nous allons vers un collapse, c'est-à-dire un moment de...
Un effondrement.
Donc 2005, l'effondrement, Diamond. Et là, depuis Pablo Servigne, la collapsologie est devenue un sujet discuté dans les salons en ville et de plus en plus accepté par de plus en plus de monde. Cette collapsologie nous mène quelque part. Elle mène à une vision d'un effondrement civilisationnel, à une fin du monde. Et ça, c'est intéressant et important. Dans la vision de ce que nous appelons ce néopaganisme, il y a une fin du monde possible et surtout, il y a un survivalisme.
Alors, c'est ça, vous alignez beaucoup d'éléments très importants. Alors, remarquons au passage, d'ailleurs, parce que vous l'avez dit, ces productions sont des bonnes productions au point de vue cinématographique.
Oui.
C'est de bonnes factures.
C'est plutôt de bonnes factures. Si on prend les grands Matrix, par exemple, qui fait partie clairement de cet imaginaire de fin du monde et de, en plus... de conspirationnisme, quand même. Parce que c'est un élément qui est non négligeable.
Oui.
Si on prend Tolkien, les deux trilogies de Tolkien, à savoir Le Seigneur des Anneaux, puis Le Hobbit, ce sont plutôt de bonnes factures. En effet, ce sont des très très grandes productions. On peut en citer beaucoup d'autres. Alien, par exemple, on peut citer... Et l'ancêtre de tout cela, c'est quand même, d'une certaine façon, c'est la Guerre des Mondes, très connue, dès les années 60-70, mais aussi toute la génération des gens qui se sont identifiés au bien et au mal, vu à travers, par exemple, les Jedi, Skywalker et tout l'imaginaire qui tourne autour.
Ce qui est quand même préoccupant, Erwan Le Corre, ce qui me préoccupe moi personnellement, c'est cette esthétisation du dépassement du bien.
Oui, c'est en cela que je parlais de virilisme, l'esthétisation de cette virilité nouvelle, qui n'est pas seulement masculine. Il y a des femmes qui, Lara Croft par exemple, dans les jeux vidéo, a incarné une femme, très virile également, mais
On voit ce dépassement du genre également, qui est un thème très très contemporain. Vous parlez de virilisme, il y a
voire même la confusion des genres.
Tout à fait.
Il y a de plus en plus dans les jeux vidéo.
C'est ça, une confusion des genres qu'on va retrouver dans le thème du zombie, le mort-vivant.
Exactement.
Ce qui est quand même dépasser la frontière de la mort pour nos contemporains, c'est quand même quelque chose qui est peut-être la frontière. Il n'y a pas de plus réel que la mort. Eh bien, la production culturelle contemporaine va mettre en scène cette confusion, ce dépassement, cette superposition, je ne sais pas comment dire, du mort et du vivant qui donne la figure du zombie.
Oui, la figure du zombie qui est très complexe depuis les années 70, c'est à la fois les pauvres, ceux qui vont se rebeller, qui vont venir vous faire payer tout ce que vous avez fait de mal toutes ces années, c'est quelque part...
Toujours la révolte contre le système.
Exactement. Le zombie est
contre les élites, on dirait aujourd'hui.
Dans les années 70, une forme de révolte ultra-violente, bien entendu, contre le système, récupérée par le système à travers notamment le fameux thriller de Michael Jackson. Et depuis... est devenu un genre en soi, c'est-à-dire on a des chaînes de télé complètes consacrées, on a des séries télévisées consacrées, on a des films entièrement consacrés aux zombies. C'est un fait établi qu'il y aurait des zombies, mais de la même façon que...
Et vous pensez, Erwan Le Corre, qu'il y a des spectateurs, il y a des jeunes, il y a des gens parmi nous qui croient aux zombies?
Je pense que s'ils n'y croient pas, ils ont confondu quelque part une forme de réalité et leur réalité à eux, parce qu'ils y passent des heures et des heures, devant des jeux vidéo notamment, et qu'à un moment donné, la réalité de ce monde-ci n'est plus tout à fait aussi réelle que la réalité de leur monde à eux. Et qu'il y a des mélanges qui s'opèrent, et qu'en effet, des séries comme Buffy et les vampires, qui sont tout à fait neuneux au départ, une petite adolescente qui se bat contre des vampires chaque jour, on pourrait trouver ça très étrange, mais a mené aussi petit à petit au fait qu'aujourd'hui, plein de jeunes considèrent que les vampires, les loups-garous, les zombies, toute cette faune, toute cette zone, dirais-je, un peu opaque, un peu noire, tout ce monde caché derrière un autre, un rideau de fumée, pardon, derrière un rideau, réalité cachée est en train d'émerger et de devenir réelle.
C'est ça,
et dans leur monde à eux,
c'est ça.
Ces choses-là deviennent aussi réelles que la politique pour nous, que la philosophie pour nous, que les héros et les grands savants et que tout un tas d'autres réalités pour nous.
Là encore, Erwan Le Corre, on pourrait voir dans cette projection animaliste quelque chose de l'antispécisme aujourd'hui, c'est-à-dire, ou de l'antispécisme plus précisément, c'est-à-dire que, oui, les animaux ne sont plus le symbole de l'innocence, comme ils pouvaient l'être par exemple dans l'école du Cavalier Bleu, dans ce mouvement avant-gardiste où on va chercher dans l'animal une innocence que l'homme a quittée définitivement, et c'est d'ailleurs annonciateur de la guerre. L'animal est une partie prenante prenant, quoi, une partie intégrée et intégrante de ce monde, Erwan Lecœur.
Alors là-dessus, moi je dirais que j'ai commencé à travailler sur ces sujets plutôt en étudiant des phénomènes d'extrême droite, en l'occurrence à l'époque, autour du Front National et de ces mouvements dont je parlais tout à l'heure, qui recrutaient notamment par le biais de jeux vidéo, mais aussi qui donnaient à toute cette mouvance, cette sous-culture qui est devenue une culture un peu mainstream, une forme de réalité. Aujourd'hui, ça a bien largement dépassé ces milieux-là. C'est-à-dire que quand vous parlez des animaux qui prennent une réalité, en fait, c'est la nature qui prend une véritable réalité nouvelle. Le néopaganisme, c'est aussi une forme de retour à la nature.
Mais ce qui caractérise le paganisme, c'est un retour au cosmos, on pourrait
Exactement.
Dire, c'est une nature signifiante et agissante pour
et
nous.
Et à un panthéon qui est issu directement de cette nature, de ce réel-là qui est naturel. Et la nature qui est en grand danger aujourd'hui, on sait que c'est plutôt l'humanité qui est en danger sur la planète, mais enfin la planète et le climat sont en danger, la nature elle-même est en train de se déliter à grande vitesse, eh bien il y a dans tout cela quelque chose de l'ordre, et on l'avait vu, je l'avais vu moi dans des groupes qualitatifs que j'avais pu faire dans les années 2000, il y a quelque chose de l'ordre d'une vengeance de la nature à travers tous ces phénomènes-là, et des guerres entre guillemets naturelles.
C'est ça. C'est-à-dire que on retrouve, d'ailleurs c'est très fascinant dans tout ce que vous nous dites, Erwan Lecœur, de voir à quel point ça fait écho avec notre monde. Et là, on pense évidemment à l'écologie, au catastrophisme écologique qui...
À la collapsologie, en effet, ou à l'effondrement.
C'est ça, à l'effondrement qui vient de la, qui vient de ce rapport troublé avec la nature, d'une nature possiblement vengeresse.
Is there anyone home? Come on down. I hear you feeling down. Well, I can ease your pain, get you on your feet again. Relax. I need some information first. Just the basic facts.
Culture, matière à penser, Antoine Garapon.
Matière à penser, toujours avec Erwan Lecœur. Erwan Lecœur, sociologue, et qui nous initie à ce nouvel imaginaire ordalique contemporain, et qui a choisi de nous faire écouter les Pink Floyd, Comfortably Numb.
Oui, Antoine Garapon, c'est un morceau que d'abord j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup écouté, et surtout qui pour moi symbolise absolument cette espèce de revival, c'est-à-dire dans The Wall, qui est l'album des Pink Floyd considéré, et dans le film The Wall, qui est un film important, je trouve, dans les années début des années 80, fin des années 70, on voit le chanteur de rock, Monsieur Floyd, en l'occurrence, se transformer en leader fasciste à l'occasion d'une sorte de maladie qu'il a, et c'est ce qu'il explique dans la chanson. Et cette métamorphose, cette mutation, je dirais presque, d'un leader par la chanson, par le rock, qui est donc dans les années 70 le phénomène de société majeure, cette mutation en leader fasciste qui va entraîner tout un tas de choses derrière, et c'est l'objet de The Wall, hein, c'est comment le fascisme, comment la Seconde Guerre mondiale, toutes les questions que Roger Waters a posées à travers cet album, eh bien pour moi c'est emblématique de ce que nous vivons encore, c'est-à-dire qu'il y a chez chacun d'entre nous une forme de transmutation possible à travers des croyances très anciennes, des retours à des choses qui sont enfouies très très profondément chez nous. nous et qui nous font croire qu'à un moment donné, notre peuple va se libérer du joug d'un système qui l'enserre. Et on voit bien qu'il y a ces dernières années beaucoup de phénomènes conspirationnistes qui pourraient nous ramener à ces formes-là que j'appelle fascistoïdes et que d'autres appelleront autrement peut-être.
Alors, ce qui m'intéresse beaucoup dans cette approche, c'est qu'on voit à quel point cet imaginaire, ces croyances sont à la fois extrêmement subjectives, extrêmement profonde et extrêmement politique. Oui. C'est-à-dire qu'elles sont, on ne peut pas séparer ce qu'on a vu sur le sur la toxicomanie, c'est-à-dire sur cette dimension de l'ordalie comme recherche d'une autorisation d'exister. Qui est très importante dans un monde où on ne reçoit plus cette autorisation de Dieu ou de la communauté ou de la société. Et donc, on la recherche par des formes un peu obscures et d'ailleurs non socialisées, comme dans la toxicomanie, qui conduisent d'ailleurs souvent à la déchéance sociale et à la mort. Mais là, cette culture, elle vient soutenir quelque chose. Elle vient soutenir une déshérence. Elle vient soutenir une absence, Erwan Lecoeur, une absence de récit religieux. C'est-à-dire oui, que...
Une absence de sens. Exactement. Oui. Et alors, moi, j'avais travaillé là-dessus au départ, c'est-à-dire que cette crise du sens que l'on trouve chez Husserl, 1920, la crise du sens et la culture en Europe, européenne, est quelque part à la fin de ce 20e siècle et au début du 21e, sous de nouvelles formes tout à fait présentes. C'est-à-dire, on a à nouveau ce relativisme intégral des valeurs de Max Weber, on a à nouveau quelque chose de l'ordre de la fin du grand récit proto-religieux, ou je dirais philosophico-religieux, qui nous permettait de nous rassurer. Qu'est-ce que nous faisons ici? Pourquoi l'histoire nous a menés à cela? Et qu'est-ce que nous faisons ensemble? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Toute idéologie a besoin de ces deux éléments. Oui. Elle a besoin, en gros, de raconter le réel.
Bien sûr.
Pourquoi nous en sommes là et qu'est-ce que nous pouvons faire dans ce monde.
En même temps, la religion nous proposait une vérité collective, une vérité traditionnelle transmise par l'Église. Et là, ce qui est très frappant et ce qui est contradictoire d'ailleurs, mais une contradiction qui est vécue peut-être par nos sociétés entre les générations, c'est-à-dire il s'agit d'une vérité initiatique. Et une vérité cachée, une vérité qu'il faut conquérir, conquérir contre les apparences, alors que la religion, c'était aussi, et la politique plus encore que la religion, c'était une transformation délibérée, causaliste du monde.
Mais parce que nous sommes à un moment de mutation, de transformation très forte. Edgar Morin l'écrit, beaucoup de gens écrivent là-dessus et nous n'y croyons toujours pas. Nous pensons toujours que nous allons pouvoir continuer business as usual.
C'est ça, mais tous les jeunes qui se nourrissent de cette culture.
Il n'y a pas que des jeunes.
Tous les jeunes, j'insiste, parce que malheureusement c'est pour les vieux comme moi.
Il y a aussi des quinquas qui sont absolument complètement là-dedans et qui sont dans un conspirationnisme extrême et une forme de pensée magico-religieuse absolue. J'insiste beaucoup. Même le fait de voter pour Jean-Marie Le Pen en pensant qu'il va changer les choses, c'est une forme de magico-religieux déjà. Et lui-même le sait. Toutes les formes... le fait de voter pour le Bharatiya Janata Party dans les années 80 était une forme de magico-religieux. C'était remettre en place la Hindutva, c'est-à-dire la croyance qu'il y avait un pays hindou plutôt qu'un pays indien, exemple.
Erwan Lecoeur, ça veut dire qu'il y a quand même une fracture entre les générations, une fracture culturelle en l'occurrence, parce que vous nous parlez d'un univers de sens nourri par les jeux vidéo, encore faut-il jouer aux jeux vidéo, nourri par une certaine musique, nourri par, et qui rejoint des thèmes politiques, mais qui ne communique pas ou très peu avec le monde ancien qui continue d'être la nourriture spirituelle d'autres générations.
Je ne connais pas votre âge, Antoine Garapon. Je ne sais pas si vous avez été rocker, mais je pense que le rock, comme le mouvement punk, ont été des critiques absolues du système.
Et des annonces.
Voilà. Elles ont annoncé quelque chose de l'ordre du no future, etc. Aujourd'hui, ce à quoi nous assistons, c'est en effet un phénomène de type conspirationniste absolument généralisé.
Mais qui est l'aboutissement. À vous comprendre, parce que vous avez choisi de nous faire écouter Pink Floyd. Oui. Pink Floyd, c'est juste après la génération 68 à laquelle j'appartiens. Celle qui suit juste après, mais elle n'était pas 68.
Non.
Et ça veut dire que les signes annonciateurs de cet univers, de cet imaginaire, et on va venir bientôt à l'ordalie, les signes annonciateurs précurseurs sont très très tôt. Ils remontent à 50 ans.
Oh, ils remontent en gros à l'après-guerre.
C'est ça.
Le fond du problème de nos sociétés se situe en gros dans le fait que la croissance permanente de la consommation et donc du mode de vie, l'évolution des modes de vie, a la fois plongé l'humanité dans un problème, la crise climatique, la crise des ressources, pour le faire rapide, et que nous savons aujourd'hui que ce problème ne pourra pas être dépassé dans les 50 ans qui viennent, c'est-à-dire que nous savons qu'il y a un mur en face de nous, au sens, on dirait, et pas juste un mur comme le mur d'Adrien pour contenir les barbares. Hein. Voilà.
Dans... Encore qu'il est très très présent dans les films que vous, dont vous parlez.
C'est exactement le...
Il y a le mur et les barbares. Et
d'ailleurs,
c'est...
dans le numéro spécial de Philosophie Magazine, oui. il commente le mur des barbares, le fameux mur de très haut, et l'arrivée des hommes, des zombies, hein, des hommes blancs, du roi blanc, comme, en gros, la fin du monde. C'est-à-dire... Oui. En gros, ce que nous annonce Pablo Servigne et tout un tas d'autres gens, l'effondrement de notre civilisation. Donc, il y a quelque chose là.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est tout à fait contraire à l'universalisme de ma génération, pour faire court, c'est-à-dire l'universalisme qui était celle des grands récits, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient socialistes, et qui s'adressaient à tous les hommes. Là, ce qui est très frappant dans ces nouveaux mythes, et qui vont d'ailleurs avoir quelque chose à voir avec Lord Daly, c'est le localisme, c'est très spatialisé, c'est en fait l'Occident quand même, et l'Occident d'Europe du Nord, les mythes d'Europe du Nord, les
forêts. Ce n'est pas que l'Occident, je parlais de l'hindouisme par exemple,
oui,
ce n'est pas que l'Occident, je pense qu'il y a aussi des phénomènes quasi-religieux notamment au Japon, je pense qu'il y en a également dans un certain nombre de pays.
Mais est-ce qu'il y a cette fracture en Inde ou au Japon que nous vivons, fracture culturelle, Erwan Lecoeur, entre une certaine vision qui était encore religieuse par des récits religieux, et notamment chrétiens ou marxistes ou eschatologiques, pour faire court, qui avaient en commun l'eschatologie, cette nouvelle ambiance culturelle qui est au contraire catastrophiste.
Je pense qu'il y avait le même phénomène de post-sécularisation, pour faire très rapide.
C'est ça.
Il y a eu une forme de sécularisation dans la fin du XXe siècle, à peu près partout dans le monde, et même en Inde. Et si l'on pense par exemple au Moyen-Orient, tout un tas de pays du Moyen-Orient ont été sécularisés. On dit comment en Afghanistan, il y avait des femmes en mini-jupe, comment en Iran, il y avait tout tas de choses. Or, nous avons affaire à un phénomène de post-sécularisation, de réintroduction d'identité bricolée, religieuse, mais aussi politique, de religiosité incarnée dans la fiction, en l'occurrence, ce dont nous parlons là. Mais tout ça est nourri un besoin d'épopée, un besoin de croyance, de sacralisation du réel, dirais-je même.
Mais alors, ce qui est intéressant, et ce qui correspondrait avec votre thèse, Erwan Lecoeur, c'est, vous parliez du Moyen-Orient, ça rejoint ce que l'on constate pour le djihadisme. Le djihadisme, c'est la volonté de peupler le monde d'anges et de démons qui sont bien, bien au-delà du texte coranique. C'est de vouloir renouer avec le temps fondateur. Il y a quelque chose de très, très commun dans toute cette production culturelle, le temps fondateur.
Mais dans toutes ces séries, à un moment ou à un autre, comme dans ces grands films, comme dans ces épopées, il y a à un moment ou à un autre le retour à l'origine. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire, en gros, pour redécouvrir la vérité...
Mythique.
Bien sûr, une origine absolument mythique. Mais pour découvrir la vérité derrière le voile que la société technocratique et technologique a mis devant nos yeux, hein, et c'est le thème de Matrix, par exemple, mais c'est le thème aussi de Tolkien, c'est le thème de tout un tas de grands auteurs de ces années-là. C'est aussi la geste arthurienne. Hein. Il y a un voile que la société nous met devant les yeux et nous devons aller découvrir l'origine de ce qui fonde notre être ensemble, c'est-à-dire notre communauté, pourquoi nous sommes là, quel est, je dirais presque, le fondateur de notre tribu
Un être ensemble qui n'est pas tellement sympathique, parce que c'est la guerre de tous contre tous. Moi, ça me fait penser plutôt au monde de Hobbes, c'est-à-dire, et c'est là où on retrouve le thème de Lord Daly, où
pré-hobbesien, alors.
Oui, pré-hobbesien, parce que Hobbes propose une sortie de cet état de nature. Mais là, il y a un retour à l'état de nature. Il y a une glorification de l'état de nature, et il y a une justification de la violence et de la mort du faible pour survivre.
Oui.
C'est ça le thème de Lost, c'est le thème on est dans un monde propulsé dans un monde post-catastrophique. En
absolument, et Game of Thrones qui revient pour son ultime saison, dit cela sans arrêt, mais comme tout un tas d'autres séries et de films, il y a un besoin de grands récits, capables de tracer des frontières symboliques.
Ce sont plutôt des petits récits, en fait, pour moi. C'est des récits très très pulvérisés, qui tiennent le temps d'une saison, qui ont des traits communs, mais ils n'ont pas cet universalisme, cette ampleur et cette accumulation par la tradition.
Sauf qu'ils se présentent, comme des récits concernant l'entièreté de l'humanité. C'est-à-dire que chez Tolkien, on ne parle pas de tel ou tel pays, on parle de l'entièreté des humains. C'est l'humanité qui est en danger. Il ne reste que quelques centaines d'humains.
Confrontés aux non-humains.
Confrontés à Sauron, le maître du mal, qui est un non-humain, et on ne sait pas très bien exactement ce que c'est que ce non-humain, et qui encore une fois utilise des morts qu'il fait revivre pour venir tuer les vivants. C'est toujours le même thème.
Qui est un grand fantasme. C'est absolument. Le grand fantasme depuis la naissance. Quoi.
Qu'on retrouve dans beaucoup de religions.
Oui, et puis, qu'est-ce qui définit l'humanité? C'est comme, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas l'hominité, mais c'est l'humanité, ce qui doit retourner à l'humus. C'est-à-dire, c'est un monde dans lequel les morts sont avec les morts et les vivants avec les vivants, avec cet immense fantasme voilà. que les morts vont venir pour se venger. Mais alors, on est aussi, il y a un thème, c'est pour ça d'ailleurs qu'on les bloque dans un cimetière, j'allais dire, chez nous, qui est la ville des morts. Et il y a cette présence, Erwan Leuker, de la technique et de la machine.
Oui.
C'est-à-dire, dans Matrix, l'homme, on découvre qu'il est une pile de la machine. C'est-à-dire qu'il est complètement absorbé. C'est l'école de Francfort, quoi.
Exactement.
C'est ce grand fantasme que, c'est Günther Anders. On va devenir un élément de la machine.
Alors, c'est écrit avant Günther Anders, puisque c'est écrit dans les années 30. Günther Anders écrit dans les années 50. Oui. Mais on a le même thème, en effet, de ce progrès. Et je dirais que le livre fondateur de ça, c'est quand même Frankenstein. Hein. C'est le mythe de Frankenstein. C'est le progrès peut-être dramatique pour l'humanité. En gros, nous sommes en train de jouer aux apprentis sorciers. Et Frankenstein, c'est cela. Oui. C'est l'apprenti sorcier qui va renaître de la mort.
Ou du golem. C'est le golem. Fantasme informatique aujourd'hui du robot.
Alors,
je constate, Erwan Leuker, qu'on n'a pas encore parlé de Lord Daly. On n'a parlé que de Lord Daly, peut-être.
Oui, que de cela, mais sans en parler
alors,
tout à fait.
Alors, qu'est-ce qui est ce trait ordalique dans cette production?
Lord Daly, c'est le fait qu'il y a le besoin de renouer avec une épopée, avec un parcours initiatique extrêmement dur, extrêmement fort, qui peut redonner du sens à la vie ici-bas. C'est ça le fond de l'affaire. C'est que, en gros, dans une société qui semble vide de sens, dans laquelle, en gros, on ne nous demande pas d'être tellement important, tellement héroïque ou quoi que ce soit, il y a, pour un certain nombre de personnes, une nécessité impérieuse de retrouver du sens à travers cette épopée, cette gloire et cet héroïsme qui va enfin donner du sens au fait que on vit sur cette planète. On est quelqu'un.
C'est ça. Et il donne du sens, Erwan Leuker, par un jugement absolu.
Oui, c'est absolu. C'est-à-dire, il n'y a
c'est
pas
ça,
de...
C'est,
c'est pas peut-être...
C'est donc non négociable.
Et le bien et le mal, là, ne sont pas négociables, contrairement à ces religions pour les néo-païens, ces religions du livre, qui sont des religions, entre guillemets, un peu trop faibles. Pour les néo-païens, au sein du Front National, d'ailleurs, il y avait des bagarres comme ça, où Jésus-Christ était vu comme un être faible, d'amour.
Bien sûr, mais c'est le paradoxe, c'est le grand paradoxe. On a déjà cela chez saint Augustin, hein, c'est la cité de Dieu. Dans le fond, les Romains reprochent aux chrétiens d'avoir été la cause de la chute de l'Empire romain, par leur mièvrerie, par leur refus d'aller au combat. Donc c'est un vieux thème. Et on voit d'ailleurs l'ambivalence de l'extrême droite pour clôturer par ce par quoi nous avions commencé. À la fois, on veut une identité chrétienne, mais en même temps, le christianisme ne suffit plus. Il nous faut quelque chose de plus fort, de plus viriliste que le christianisme.
D'où un retour à cette forme d'européanisme ancestral, imaginairement. C'était l'origine de ce que nous sommes aujourd'hui. Et c'est à ça que toutes ces épopées nous renvoient. C'est-à-dire, au départ, nous étions bien plus grands, bien plus forts que ce que nous sommes devenus. Là encore, il y a clairement une critique du progrès extrêmement forte, du progrès technique, du progrès scientifique, mais aussi, d'une certaine façon, d'un progrès soi-disant moral et soi-disant pour le bien de l'humanité. Il y a là une critique fondamentale de tout ce qui s'est passé depuis quelques siècles et qui nous a mené dans une impasse, puisqu'il semblerait que notre civilisation ne soit pas à même de dépasser les contradictions internes.
Erwan Leuker, sans se rapprocher du point Godwin, ce thème du combat mortel entre les hommes, entre les hommes virils, qui justifie la mort du faible, on se rapproche d'une sorte d'idéologie nazie sans race.
D'une certaine façon, oui, on peut revenir aux amis de Tulé, la fameuse petite association qui avait ensuite créé le NSDAP.
Qui était Tulé?
Tulé, c'était en gros une sorte d'Atlantide du nord de l'Europe qui aurait disparu et de laquelle seraient venus des grands êtres humains, mi-humains, mi-dieux, très grands, très fins, et qui auraient donné en gros la race aryenne. Ça, c'était dans l'imaginaire des tout premiers nazis, dans l'imaginaire un peu malade peut-être, des premiers nazis au tournant du XXe siècle. Donc cet imaginaire-là continue d'alimenter notre européanisme donc tout un tas d'autres Européens immigrés aux États-Unis ou ailleurs. Il y a cette vision des origines, de toute façon. Et donc, en effet, vous avez raison, c'est plutôt de ce côté-là du spectre politique que l'on retrouve ces idées-là. Mais, et j'y insiste, il y a, depuis le fait que l'effondrement soit devant nous, il y a aussi chez un certain nombre d'écologistes, une vision non pas qu'il faut tuer des gens pour être héroïque, etc. Mais le fait que, oui, il y a quelque chose de plus fort que nous, la nature, qui va venir mettre un terme à tout un tas de choses. Et on trouve aussi chez les survivalistes écologistes, parce qu'ils ne sont pas tous d'extrême droite, les survivalistes, loin de là. Il y a aussi des survivalistes très sympathiques.
Comment vous définiriez des survivalistes?
Ce sont des gens qui préparent, en gros, l'après-fin du monde, et qui se disent, il va rester environ quelques millions de personnes sur la surface de la planète, sur environ 7 à 8 milliards. Eh bien, j'espère faire partie de ces quelques millions de personnes, et pour cela, il faut que je prépare l'effondrement, l'après-effondrement. C'est le cas d'un certain nombre de millionnaires de la Silicon Valley.
C'est ça, bien sûr, et de protestants, d'ailleurs, fondamentalistes. Ce qui est commun et ce qui est très proche du mécanisme mental de Lord Daly, c'est cette idée de sélection, sélection impitoyable.
On est l'élu. Quelque part, on revient à une forme de protestantisme,
ou bien de
paganisme initial.
Il y a beaucoup d'imaginaires protestants et américains dans tout cela, quand même.
Oui, beaucoup, évidemment, notamment dans les séries télévisées nous parlons, puisqu'elles sont quand même beaucoup produites par des gens qui sont issus des États-Unis.
Avec cette nuance que le combat, l'Armageddon, pour reprendre le terme consacré, c'est le combat final entre le bien et le mal, là, il peut se terminer par une victoire du mal.
C'est tout le problème, c'est que le paganisme et la vision écologique, pour le coup, du monde, vient dire que finalement, ça peut se terminer mal. Et c'est ce que Game of Thrones, on ne sait pas très bien comment ça se termine à la fin. On imagine tous que les guerriers blancs, c'est-à-dire les zombies, ne vont peut-être pas gagner, qu'il y aura une autre solution. Mais en tout cas, ce qu'on a bien vu, c'est que le système que l'on voit dans Game of Thrones, d'ailleurs, parce que c'est ça, en fait, Game of Thrones, au départ, c'est un jeu de plateau.
C'est-à-dire,
c'est un jeu en ligne de plateau, qui a donné lieu à une série télévisée, au départ à un roman, mais ça part de la logique d'un jeu de plateau. C'est-à-dire, chacun des personnages est en gros un joueur qui a des qualités, des défauts, etc. Ça vient vraiment des jeux de plateau qui ont été la matrice de tout un tas d'attitudes, de tout un tas de gens aujourd'hui qui ont 30, 40, 50 ans, qui continuent à jouer aux jeux de plateau, qui inventent aujourd'hui les serious games en entreprise, qui inventent les escape games aujourd'hui dans toutes les villes de France. Nous avons un phénomène du jeu de rôle, les jeux de plateau, c'est un jeu de rôle, Game of Thrones, d'ailleurs son nom l'indique, et d'une certaine façon, tout cela nous amène, avec la crise écologique et l'effondrement, en effet, à une grande question qui est, mais est-ce que tout ça va vers un effondrement complet? Est-ce qu'il va rester des survivants? Et la question, pour la plupart de ces séries télé, c'est que faisons-nous des survivants? Qui sont les survivants et que deviennent-ils?
Ce qui est un scénario terrible, et je vois la fréquence d'ailleurs de la métaphore Matrix, la matrice, vous disiez. Mais alors, ma dernière question sera plutôt aux politistes que vous êtes, Erwan Lecoeur. Est-ce que le grand enjeu pour nous aujourd'hui, c'est pas de savoir comment on va repolitiser, refaire de la politique, refaire un lien constructif, recréer une possibilité du futur dans cette ambiance culturelle aussi prégnante et aussi sombre.
Je vous remercie de la question, Antoine Garapon. Je ne vous cache pas que c'est un peu le sujet fondamental de ces recherches que je mène depuis quelques années maintenant. La question fondamentale, c'est que nous ne pourrons pas nous opposer à des visions du monde. On ne peut pas invalider des mythes, on ne peut pas invalider une vision du monde complète qui porte autant de choses sans avoir soi-même une vision du monde à opposer. Or, c'est bien ce qui manque, c'est qu'il manque peut-être des séries télévisées, des films, des livres, tout un tas de choses qui nous présenteraient un monde dans lequel on peut vivre avec la crise climatique, la crise énergétique et... éventuellement, on peut vivre après l'effondrement.
Rassurez-nous, Erwan Lecoeur, on ne peut pas terminer cette émission sur un constat aussi pessimiste. Est-ce que vous voyez dans la production culturelle contemporaine quelque chose d'autre? Je ne dis pas un antidote, mais une autre tendance culturelle qui renouerait de manière plus positive et plus politique avec l'avenir.
Oui, il y a deux choses. D'abord, et chez Tolkien, et chez Matrix, et dans toutes ces productions-là, il y a aussi une vision plutôt, je dirais, beaucoup moins combative.
Oui, une essence de la délibération, par exemple.
Il y a la délibération, il y a tout un tas de choses qui, même dans Game of Thrones, il y a d'autres possibilités, il y a des alternatives qui existent déjà dans ces milieux-là. Et puis, je pense qu'il commence à y avoir de plus en plus de gens qui disent et qui pensent et qui se préparent à inventer un autre grand récit. Et c'est ça, à mon avis, qu'il faut maintenant commencer à faire.
Eh bien, merci beaucoup, Erwan Lecoeur, que le ciel vous entende. Non, que nos compatriotes vous entendent.
Merci à vous, Antoine Garapon.
Matière à penser, Erwan Lecoeur, Valérie Lavalard, Joséphine Lampreilla, Sandrine Chaperon, Catherine Denet, Anne-Pascale Desvignes, Antoine Garapon. Et la semaine prochaine, je laisserai mon siège à Frédéric Worms qui s'intéressera aux femmes qui changent tout.
Bonsoir.